Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québécois, voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
La coroner Jeanne Kamel a présenté son rapport visant à faire la lumière sur les décès des aînés ou des personnes vulnérables qui sont survenus dans les CHSLD en première vague de pandémie. Elle aura l'occasion de l'expliquer, ce rapport-là, mais revoyons là, les grandes lignes. Là. Il y a des constats, il y a des recommandations également, puis ça fait énormément jaser, entre autres, une plus grande indépendance entre le directeur de la santé publique et le politique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le directeur de santé publique, il est aussi sous-ministre à la santé. Alors, on aura beau dire on voulait deux points de presse distincts entre le politique et la santé publique, mais ça va plus loin que ça, le lien entre les deux sphères. On dénonçait aussi l'absence de médecins en CHSLD dans les premières semaines de la pandémie. Les recours à la télémédecine, par exemple, qui brouillait peut-être là, la clarté du diagnostic à prendre. Un point important, Mario, aussi, là, convertir les CHSLD privés en CHSLD privés conventionnés, parce que ça, il y a une différence assez importante.
En fait, ouais. Les CHSLD privés, là, ça va faire bizarre ce que je dis, mais ça existe jamais vraiment. Je m'explique. Il n'y a pas un moment où tu avais des CHSLD publics.
Oui.
Bon, ceux-là sont très coûteux, donnent des services comme on peut. Tu as les CHSLD privés conventionnés. Moi, c'est un modèle dans lequel j'ai beaucoup confiance, mais qui donnent des services identiques. Ils ont les mêmes normes de pratique d'infirmières, les conventions, les heures, soins, tout pareil. Il n'y a jamais un moment, Alexandre, où le gouvernement s'est dit « Tiens, je vais créer d'autres CHSLD privés. » C'est vraiment apparu comme un peu accidentellement, j'utilise le mot. Tu sais, on manquait de place. Et dans le langage du moment, les ministres de la Santé disaient « Ben là, tiens, je vais prendre des centres là, qui ont l'air pas pires, puis je vais leur acheter des places. Donc, je vais les payer plus en disant ces 12 places-là, ces 20 places-là, on va leur donner un statut CHSLD. » Donc, tu sais, des 3-4 heures soins par jour. Moi, ce que je veux dire, là, on va te payer pour que ces chambres-là, ouais. Ou cette aile-là, là, ton deuxième étage, aile droite, là, ça, c'est des lits CHSLD. On va te payer en conséquence. Mais là, on va te payer en conséquence. Là, ça n'a jamais été les mêmes normes au niveau du personnel. Ils disaient que oui, mais on savait que c'était pas le cas. Le personnel n'était pas payé pareil. Ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait dans les autres CHSLD, publics ou privés conventionnés. Là. C'est une espèce d'hybride qu'on disait temporaire. On disait, là, on fait ça parce qu'on est mal pris, on manque de place, et qu'on achète des places pour compenser. Mais là, quand venait le temps de renouveler ça un an plus tard, le gouvernement disait, ouais, mais ces places-là me coûte moins cher. Avec, ce qui était temporaire, on va renouveler pour un an ou deux. On renouvelle. Puis, tu sais, il n'y a rien de plus permanent que quelque chose de temporaire que tu renouvelles.
Mmh. Ouais, ouais.
Et donc, on a créé, puis là, il y en avait de plus en plus, donc on a créé une espèce de troisième réseau. Tu as les CHSLD publics, les CHSLD privés conventionnés, puis là, tu avais les CHSLD qui n'en sont pas, là, qu'on appelle privés, mais. J'aime pas dire CHSLD privé, parce que souvent, c'est des centres de personnes âgées qui avaient juste une aile ou juste quelques lits. Ils sont pas CHSLD d'un mur à l'autre, là. C'est des places qu'on leur a achetées. Et c'est là que ça a le plus mal été dans la pandémie. Là. Ouais. Aaron, c'était exactement ça. Est-ce que c'est des gens qui faisaient ça pour l'argent? Est-ce que c'est des gens qui étaient juste pas assez bien organisés? Est-ce que c'était du service vraiment minimaliste avec du personnel moins bien payé, moins bien formé? Peut-être des petits bouts de toutes ces réponses, là, mais en tout cas, ça a pas bien tourné. Là.
Non, et dans son enquête, la coroner Kamel a entendu quand même le témoignage de plus de 200 témoins. Et un témoignage qui avait retenu l'attention, c'était celui de la ministre des Aînés, Marguerite Blais, qui a été très critiquée depuis le début de la pandémie. Ben, selon la coroner, elle a livré le témoignage le plus crédible, malgré le discours qui avait été formaté pour la présence de cette enquête-là. Il n'y aura pas d'enquête publique là, non plus, là, malgré des souhaits d'opposition. Je te fais entendre le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a fait une brève réaction. Là. Il n'avait pas eu le temps là, de le parcourir au complet, là, rapport-là, suivi donc de Maître Paul Brunet du Conseil de la protection des malades.
De ce que j'ai vu, là, rapidement dans le tour en m'en venant ici, je peux vous dire que l'essentiel des recommandations sont soit déjà implantées, parce que rappelez-vous que le rapport porte sur la première vague, puis moi j'avais fait un plan pour la deuxième vague. Déjà, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont implantées, puis ce qui ne l'est pas, là, je serais bien surpris qu'on qu'on ne tienne pas compte exactement tout ça.
Bien que Mme Kamel n'ait pas à blâmer des gens, elle aurait pu quand même insister sur le fait que parce qu'on a dormi sur la switch, on a fait mourir des centaines, voire des milliers de personnes dans CHSLD, que ce soit par l'abandon du personnel, par l'expulsion des proches aidants, ou simplement parce que on ne savait pas ce qui se passait avant le mois d'avril, combien de gens, y compris Mme Blais, l'ont répété lors de leur témoignage sous serment. Alors, c'est ça que je trouve triste, et cela aurait pu faire partie des circonstances et des causes des décès sur lesquels Mme Kamel a étudié.
Ouais, je ne suis pas en désaccord. Je comprends très bien ce que dit Paul Brunet. En même temps, la coroner dit que c'est des décennies de négligence en CHSLD qui ont abouti au triste résultat qu'on a connu. Il n'y a pas de doute qu'à la CAQ, par exemple, on doit être quand même assez soulagé. Le rapport qui dit qu'il n'y a pas de nécessité d'une enquête publique, le rapport qui ne blâme pas le gouvernement. Et sincèrement, il y en a probablement qui vont le dire quand même, mais non, je pense pas qu'on puisse dire que la coroner Jeanne Kamel, tu sais, dans l'affaire Joyce Echaquan, en fait, c'est quasiment elle qui a fait tous les plus gros dossiers, tous les plus durs dossiers. C'est une coroner qui a une réputation là, d'être très, très dure. Même dans le cas de Joyce Echaquan, à mi-chemin, on lui avait dit de se calmer, là, que ses commentaires au fur et à mesure créaient un malaise sur l'apparence de neutralité, parce que quand les témoins avaient l'air de patiner, quand les témoins avaient l'air de présenter...
Elle les ramassait, là.
Oh, oh!
N'enchaînait pas. Oh, oui.
Donc, c'est pour ça que tu dis, ouais, est-ce que c'est une commissaire ou une coroner bénie oui-oui, là, tu sais, qui dit tout ce qu'on veut entendre? C'est pas tellement sa réputation. Alors, certainement que le gouvernement doit être assez soulagé du rapport.
Tu fais le plein en fin de semaine, Mario?
Oui, j'ai fait le plein, mon cher. J'ai fait le plein deux fois parce que je suis descendu voir mes parents dans le Bas-Saint-Laurent.
Oui, alors, ben, j'étais dans la même situation que toi, moi, pour aller travailler à Québec. Hein,
et j'ai déjà confié aux auditeurs que j'ai une auto dite de luxe. Donc, moi, c'est du super.
Oui,
ben, je pense que j'ai fait le plein une fois à 2,26 puis une fois à 2,27.
Ça ressemble à ça. Donc, moi, pour mon VUS, c'est 60 litres. Je suis à peu près à 140-145 $ pour faire le plein en ce moment. Et là, il y en a plusieurs qui ont fait le saut en fin de semaine parce qu'on a assisté à un bon pour l'ordinaire d'à peu près 10 sous. Là.
Mais je pense que les gens s'étaient fait une idée, c'est drôle, la psychologie humaine ou économique. Les gens s'étaient fait l'idée, là, ils nous ont fait le coup à 2 $, puis là, ils vont nous laisser tranquille avec les augmentations, mais le marché, je veux dire, 2 $ était passé, puis ça continue d'augmenter. Le baril est encore à la hausse aujourd'hui. Si t'écoutes les experts qui regardent la demande mondiale, qui regardent les conditions, qui regardent l'avenue de l'été dans l'hémisphère nord, il n'y a pas grand monde qui dise les prix s'en vont en baissant. Quoique les experts se trompent parfois sur certains dentiers, certaines fluctuations.
Ouais.
Mais le retour à 1,40 $, là, il n'y a personne qui a ça dans ses prédictions. Là.
Non. Puis tu sais, cette tendance-là a même été devancée parce que, souviens-toi, les experts nous disaient en entrevue « Ah, ça va être à 2 $ là, cet été. » 2 $, on l'a pris pas mal avant l'été. C'était au début du printemps. Là, le 2,20 qu'on nous prévoyait pour l'été va arriver si la tendance se maintient au cours des prochains jours. Alors, on se pose la question, ben ça va s'arrêter où? Ceux qui ont, et tu le disais avec justesse, Mario, là, ceux qui ont acheté des gros véhicules récréatifs, des gros
VR de la pandémie là,
pour se promener. Et les bateaux aussi, ça coûte une fortune. Alors là, je te fais entendre les commentaires de deux experts. Pierre-Olivier Pinault, lui, il est titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie au HEC Montréal. Il va nous dire un petit peu, nous expliquer la tendance. Et l'autre, c'est Jean-Thomas Bernard. Il est économiste et il revient, lui, sur la proposition de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois de plafonner ça, l'essence, à 1,60 $ au Québec.
Il va falloir soit un règlement de la situation en Ukraine ou une récession économique pour qu'on revoie des bas prix. Évidemment, si les deux surviennent, on va retrouver des bas prix. C'est pour ça qu'on peut pas compter sur de telles choses et qu'il faut vraiment ajuster les comportements et la consommation plutôt que d'attendre les bas prix de l'essence.
Si le gouvernement plafonne le prix, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il n'y aura plus d'essence. Hein, on va les vendre d'ailleurs. Il ne faut pas compter sur la générosité des producteurs de pétrole pour approvisionner tout le monde. On parle pas ici, là, vous verrez, hein? C'est pas des œuvres de charité, ça.
Ouais. Mais là, la proposition du Parti québécois, là, sans méchanceté, là, je comprends qu'ils ont voulu s'attaquer de façon honnête à un problème que vivent durement l'ensemble des Québécois pour montrer qu'on est à l'écoute. Mais tu sais, nous au Québec, on va fixer, on va limiter le prix de l'essence à 1,60. Mais c'est parce que, juste pour expliquer aux gens, là, quand on dit que c'est un marché mondial, évidemment, quand tu achètes à ta station-service, c'est pas un marché mondial. Là. Ta station-service, elle vend aux gens du quartier ou aux voyageurs de passage, mais t'as un marché local. Mais la station-service, elle, pour qu'elle ait du pétrole, ça vient des raffineries québécoises. Et ben, nos raffineries, elles autres, achètent des barils. Achètent des barils de pétrole. Puis, mettons, le matin, je pense que c'était à 109 piastres du baril. Je pense que ça a monté dans la journée, je sais pas trop. Mettons que c'était à 109 piastres du baril. Tu dis, ah ben là, nous autres, Valero, à Lévis, là, la raffinerie qui est à Lévis, sur le bord de la Vin, pour les gens qui passent là. Ah non. Nous autres, au Québec, on n'a pas le droit de vendre plus qu'une et 60. Fait que pour le baril, il faut qu'on se limite à 80 piastres. Ben là, pas de problème. On vous en vendra pas à 80. On se chicanera pas, là. Mais à 80, il n'y en a pas à vendre. Fait qu'on va en vendre à l'Ontario, on va en vendre aux autres provinces, mais le Québec, tu sais, il n'aura... Tu sais, quand tu veux pas payer le... Je veux dire, va à l'épicerie, toi, puis tu veux pas payer le prix pour un certain bien, là. L'épicier, je pense pas qu'il va te chicaner. Il va te dire, bon, mais monsieur, laissez-le sur la... Très bien, laissez-le sur la tablette, achetez autre chose.
Tu vas partir les mains vides.
Achetez autre chose, là, il n'y a pas de problème. Mais ça, tu sais, c'est ça le prix. C'est un prix mondial. C'est un prix fixé par la concurrence. Est-ce qu'il y a un côté... C'est sûr qu'il y a un côté achalant, parce que les pays de l'OPEP, on dit, pour augmenter la production. En même temps, tout le monde dit, ah, faut pas en produire plus, faut plus investir, faut plus que la caisse de dépôt, faut plus que personne investisse dans le pétrole. Fait que ça, c'est en train de se faire. Il y a de moins en moins les grands fonds qui disent, ah, le pétrole, on veut se tenir loin de ça pour notre réputation. Fait que moins de monde investisse dans le pétrole, la production. Tu sais, quand on dit qu'il faudrait hausser la production, mais il y a comme moins d'intérêt à hausser la production. Fait que les grands producteurs, les grands pays producteurs, les grandes compagnies productrices se disent, regarde, on a notre production, on va laisser le prix augmenter.
Ouais.
Parce que nous, on paye le prix.
Parce que sur le 2,15 à la pompe, il y a 68 % de ce prix-là qui est le coût d'acquisition du carburant. Il y a 27 % de taxes.
Mais ça a beaucoup baissé parce que
oui.
le pourcentage des taxes est moins important parce que là, le prix du carburant lui-même est beaucoup plus élevé.
Ouais. Et pour ce qui est, ceux qui sont frustrés après leur détaillant, là, c'est 5 % là. La marge du détaillant, là, c'est à peu près 5 %.
Dans ce contexte-là, c'est pas votre station-service qui fait l'argent. Là.
Non. Dans ce contexte-là, ben, il y en a plusieurs qui songent peut-être se retourner vers les transports en commun qui avaient été boudés pendant la pandémie. Il y a toutes sortes de projets. Un projet qui fait jaser, Mario, c'est le tramway à Québec. Puis on sait à quel point Bruno Marchand, le maire, se débat un peu comme un diable dans l'eau bénite pour essayer de faire mousser le projet. Là, il y a un sondage léger qui a été réalisé pour le compte du Parti conservateur du Québec. Mon collègue de TVA Nouvelles l'ont obtenu. Nous apprend que, malgré tous les efforts de Bruno Marchand, les appuis remontent pas pour le tramway. Et quand on regarde, deux choses, là. D'abord, les citoyens là, du Grand Québec, de la grande région de Québec interrogés, la moitié des gens, à peu près 54 % pensent que c'est un mauvais projet pour la province. Et il y en a 38 % qui pensent que le tramway représente un bon projet. Le troisième lien, ça récolte davantage la ferveur des résidents. 57 % pensent une opinion positive de ce bitube entre Québec et Lévis. Puis il y a 33 % qui en ont une mauvaise opinion. Ça, c'est pour les citoyens qui habitent la région de Québec. Si on inclut les gens des autres régions ailleurs en province, 44 % des gens sondés pensent que le tramway, c'est un bon projet. Puis il y a 30 % des gens qui pensent la même chose du troisième lien. Tu vois,
mais ce qui est bizarre,
les proportions sont pas les mêmes.
Non, ça, je le comprends. Mais ce qui est étonnant là-dedans, c'est que dans le cas du tramway, le tramway est plus populaire de Montréal à l'Abitibi, au lac Saint-Jean. Oui. Le tramway est plus populaire hors Québec.
Qu'à Québec
où on en bénéficierait. J'ai rarement vu ça. Je veux dire, pour n'importe quel projet, habituellement, ça veut pas dire qu'il fait l'unanimité dans une place. Il y a toujours des gens dans... Mais généralement, les gens d'ailleurs se disent, ah ben là, tu sais, eux autres, là, ils vont avoir un tramway, nous autres, tu sais, t'as toujours une espèce de jalousie naturelle. Là. Fait que c'est rare qu'un projet est plus appuyé hors région que dans la région. Alors, ça remet quand même... Moi, je trouve qu'il y a comme un petit peu un appel à la prudence au maire Marchand, là, qui, la semaine passée, se montrait, tu sais, bombe le torse devant le gouvernement, puis les changements climatiques, puis nous, les maires, on sait... Ouais, changement climatique... Moi, personnellement, je supporte le projet de tramway, mais lui-même, dans sa population, il semble pas avoir ce niveau de support-là. Fait qu'il y a quand même un petit peu de travail avant de donner les leçons aux autres là, sur l'environnement. La première étape, c'est de convaincre sa propre population que le projet, la base, là, un projet structurant de transport en commun, que son projet est bon. Là.
le point sur la guerre en Ukraine, mais aussi toute la crise là, diplomatique que ça engendre. Il y a toute la question de l'adhésion rapide là, à la fin de la Finlande, de la Suède à l'OTAN. On sait que c'était dans l'air depuis un certain temps. La Finlande a manifesté officiellement son intention en fin de semaine. Et là, le Canada, c'est pas une grande surprise, va se ranger du côté de la Finlande et de la Suède dans leur souhait de rejoindre l'OTAN rapidement. En raison, bon, de la guerre en Ukraine. Quand tu regardes ça, Mario, tu sais, pendant des années, là, les deux pays, étant donné qu'ils sont limitrophes avec la Russie, ont opté plutôt pour une stratégie de neutralité militaire. Ils ne voulaient pas trop s'avancer. L'Ukraine et la guerre est venue complètement changer la donne.
Vraiment. Vraiment. Et changer la donne dans le sens de ce que Poutine voulait éviter à tout prix. En fait, Poutine a attaqué l'Ukraine parce qu'il avait peur que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Puis il disait, moi, l'OTAN, je veux pas avoir ça dans ma cour, je veux pas avoir ça dans ma face, je veux pas avoir ça dans ma frontière, là, tu comprends? Or, la Finlande a une frontière de quelque chose comme 700-800 km avec la Russie, là. Et là, la Finlande se joint à l'OTAN. Fait qu'en matière de pas avoir l'OTAN, tu sais, sur le bord de son terrain, là, c'est tout un échec. Et sincèrement, pour l'OTAN, à mon avis, il n'y a aucune forme d'hésitation. Je veux dire, la Finlande, la Suède, des grands pays, des grandes démocraties, des pays bien organisés avec des armées sérieuses, dans un accord, dans une entente militaire, tu regardes les critères de l'OTAN, d'être une démocratie, le respect des droits de l'homme, d'avoir une capacité militaire de participer. Je veux dire, tu coches les cases là, sans réfléchir les unes après les autres. Et à date, c'est un peu une risée. Parce que le seul pays de l'OTAN qui hésite, là, qui dit « Ah, moi, je suis pas sûr que je veux ça, la Finlande, la Suède », c'est la Turquie. Et sincèrement, Alexandre, je suis pas contre qu'on ait intégré la Turquie à l'OTAN parce que je comprends que pour des raisons stratégiques, son positionnement vers le Moyen-Orient, la stratégie est un pays, la position stratégique de la Turquie en fait un pays qui était intéressant à voir dans l'OTAN. Mais c'est-à-dire, si on commence les critères d'une saine démocratie puis le respect des droits de l'homme puis tout ça, d'après moi, on va embarquer la Finlande puis la Suède puis on va débarquer la Turquie, là. Oui. Sans méchanceté, là, pour... Tu sais, oui. La Turquie, la façon dont ils traitent les Kurdes puis tout ça, fait que c'est plus... t'as le goût de dire à la Turquie, là, regarde, là, correct, là. Ta gueule, tu sais, t'es pas placé pour faire des prises de sang aux autres en matière de respect des droits, en matière de critères pour embarquer dans l'OTAN. Là.
Donner des leçons, ouais, ouais.
Non, on ferme un petit peu les yeux pour te garder dans l'OTAN, là.
Ouais.
Fait que reste tranquille quand on embarque des nouveaux amis.
Puis l'autre gros symbole aujourd'hui, c'est McDo. McDo, ça fait 30 ans qu'ils sont présents en Russie. Ben là, on a annoncé qu'on se retirait entièrement du pays, qu'on vendait les actifs. On avait déjà là fermé temporairement les restaurants là début mars à la suite de l'invasion en Ukraine. On avait fait l'objet d'un boycott sur les réseaux sociaux notamment. C'est 850 restos en Russie, McDonald's, 62 000 salariés. Puis ce sera surtout aussi une perte de valeur des actifs assez importante. Là, on parle de 1,2, 1,4 milliards qu'on va complètement effacer au livre. C'est une grosse décision de McDonald's, mais en même temps, pour le moment, on n'avait pas le choix.
Oui, ben, réputation, valeur. Puis, tu sais, à un moment donné, si tu dis... je pense qu'une compagnie comme ça, tu dois faire des scénarios. Tu dis, OK, mettons, scénario de retour en Russie. Là. Quand? Oh là là, on sait pas combien de temps cette guerre-là va durer, tout ça. OK, après la guerre, combien de temps l'opinion publique mondiale va dire la Russie plus jamais, là? Tu sais, que ça va être un partenaire infréquentable. Fait que, tu sais, la liste des problèmes est assez longue, là. La liste des problèmes de se réintégrer. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, regarde, là, on a beau... Il n'y a aucun scénario où ça va avoir de l'allure, où ça va être... où on va avoir le goût, où on va vouloir faire affaire dans ce pays-là. Fait qu'on prend, comme on dit, on prend la perte au livre, là, en anglais, ils disent, on prend le write-off, là, on efface. Dans leur cas, ils parlent de 1,4 milliard à effacer des livres. C'était 850 restaurants répartis à travers la Russie. Là, ils vont rendre, entre toi et moi, là, ils vont vendre des actifs à perte, là. Ils vont enlever l'arche dorée, ils vont enlever tous les symboles McDo, puis ils vont vendre les friteuses, puis... Ben, tu vendras pas ça pour, dans l'état actuel de la Russie, tu vendras pas ça pour la valeur réelle. Fait qu'ils vont prendre la perte et puis ils vont sortir de là. Mais ce matin, LCN, je parlais de ça quand même avec un certain côté nostalgique parce que je sais que les gens peuvent voir ça comme un peu niaiseux. Tu vois, là, McDo, c'est pas la fin du monde, c'est juste un restaurant, c'est même pas bon pour la santé. Mais McDo, c'est pas juste McDo. Là. Il y a un symbole, il y a un symbole plus grand. Et moi, je me souviens de l'hiver 1990, là, j'avais 20 ans. McDo débarque à Moscou, c'est la folie. Mais là, il faut voir que quelques années avant, on commençait à parler d'une ouverture, la perestroïka, là, l'ouverture des réformes économiques, l'ouverture d'une certaine économie de marché, des Russes, puis Mikhail Gorbatchev. Au début, on y croyait pas. Puis tout à coup, tout s'est mis à débouler. Là. 1989, la chute du mur de Berlin. Donc, l'ouverture l'année d'après de la Russie à des investissements comme McDonald's. C'était vraiment, c'est la fin du rideau de fer, là. C'est la fin de cette coupure de l'humanité là,
exact,
entre les deux blocs. Alors, c'était quelque chose. Et là, McDo débarque, on se dit, ouais, là, les Russes, ils haïssent tout ce qui est américain, tout ce qui est occidental. Ben ouais, les Russes, là, mettons, le restaurant avait prévu une heure de fermeture, je sais pas c'était quoi, là, 10, 11, 12, minuit, 10, 11 heures le soir. Là, à l'heure de fermeture, moi, j'ai des souvenirs flous, mais c'était plein de monde. C'était la folie. On fait des burgers durant la nuit. Ah oui, il y avait du monde. Ils voulaient pas décevoir les gens. Fait que, tu sais, ça avait été un événement. Tu te dis, OK, mais là, les Russes, d'abord, il y avait des enfants, des mascottes. Il n'y a rien qu'il n'y avait pas. Les images de ça ressortent aujourd'hui. Donc, il y avait... Tu sais, c'était un enchaînement d'événements. Puis ça, ben c'était un symbole de plus, là, tu sais, que de dire, OK, vraiment, là, tu sais, le monde s'ouvre. Puis... ce symbole, oui, pour les gens d'extrême gauche, le McDo, c'est le symbole d'un capitaliste sauvage, mais pour la moyenne de l'humanité, tu te dis, regarde là, si on veut ouvrir une nouvelle ère de prospérité, de paix dans le monde, ben là, c'est la guerre qu'on craignait entre la Russie et les États-Unis là, pendant des années, puis la guerre froide, ben, s'il y a des McDo à Moscou, là, les Américains pitcheront pas de missiles sur leur McDo. Tu comprends l'image, là? Les pays rentrent plus en guerre quand tu fais affaire dans le pays de l'autre, là. C'était ça l'idée, là, c'est-à-dire que c'est fini là, le rideau de fer, la guerre froide, tout ça, on s'en va vers une ouverture du monde, les images du mur de Berlin, tout le monde partait avec son petit morceau de mur dans les mains, les jeunes qui sautaient par-dessus l'Est, l'Ouest de l'Allemagne. T'sais, c'est des images fortes de réunification, puis là, tout comme McDo débarque, puis les Russes sont contents de ça, puis l'accueillent à bras ouverts. Mais c'est tout ça qui est un peu, tu sais, la guerre de Poutine, c'est toute cette époque-là, on dit OK. C'est le retour d'un certain rideau de fer, c'est le retour d'une fermeture avec provoquée. Puis je me dis, bah ouais, provoqué par Poutine, sa folie, mais je peux pas. Là, nous autres, on a-tu le. Ben, nous autres, là, moi, j'avais 20 ans, mais l'Occident, les gouvernements américains, les premiers ministres canadiens, les gouvernants européens, les présidents américains, est-ce que collectivement, on a échappé des bouts. Est-ce que c'était inévitable le retour d'un tsar historiquement en Russie? Est-ce que c'était inévitable? Puis Poutine est juste un retour de l'histoire? Ou est-ce qu'on a échappé quelque chose en chemin? On s'est pas bien occupé de cette relation-là? On a voulu... Je me pose quand même la question parce que là, on est dans un retour en arrière. D'abord, une guerre dégueulasse là, du niveau de la Deuxième Guerre mondiale qu'on voulait plus revoir. Oui. Mais un retour en arrière sur plein d'autres affaires. Donc, McDo... C'est pas que c'est bon pour la santé, que c'est merveilleux, que c'est la fin du monde. Mais aujourd'hui, d'entendre cette nouvelle-là, le McDo sort de la Russie, c'est un méchant gros symbole de retour en arrière sur les espoirs d'une époque.
Et un petit mot en terminant, Mario, pour te dire que maintenant, les jurés au procès de Carl Giroir sont séquestrés. On va y aller de délibération. Le juge a donné les dernières directives des verdicts possibles. On sait que fait face Giroir à 2 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, 5 chefs de tentative de meurtre. Puis l'enjeu, c'est pas est-ce qu'il l'a fait ou non. Il a reconnu avoir fait ces actes épouvantables le soir de l'Halloween 2020.
Dans ce que tu appelles les verdicts possibles, l'acquittement pur et simple n'existe pas.
Parce que l'enjeu, c'est au niveau de la santé mentale. Est-ce qu'il était criminellement responsable ou pas de ce qu'il a fait? Est-ce qu'il distinguait le bien ou le mal? Et puis, c'est un peu la thèse de la défense en disant, ben non, il distinguait pas le bien ou le mal. Alors que la couronne, avec les experts, parce qu'on en a entendu plein, ben c'était tout le contraire. On nous disait, ben non, c'était ancré en lui plusieurs années avant le passage à l'acte. Et c'est une idée qui a germé en lui. Alors, tu vois, c'est deux thèses complètement différentes et les 11 jurés vont devoir prendre ultimement cette décision-là.
Et donc, ils sont séquestrés à partir de maintenant. Donc, à tout moment, là, le jury pourrait se présenter au juge et dire « Nous avons une décision ». Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.